Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur 3V11, la web radio du lycée Charles de Gaulle. Merci d'être ici avec nous, dans l'Alliance française de Conception, pour une semaine qui se lie à la francophonie et le féminisme à l'occasion du 8 mars.
Toute la semaine, nous voyageons à travers les continents pour raconter comment les femmes sont entrées en francophonie, par choix ou besoin de subsister.
Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à 3V11. Commencemos entonces.
Aujourd'hui, on parlera de l'ASI, autour de la migration et l'identité culturelle, toujours en relation à la langue française, parce que la francophonie se conjugue aussi au féminin.
Quand on pense à l'ASI, on pense à un continent avec une grande diversité. L'ASI compte aujourd'hui près de 50 pays, plus de 4 milliards d'habitants et environ 2300 langues parlées, soit plus de la moitié des langues du monde. L'ASI est un continent de migration. Due aux fortes inégalités socio-économiques de la région, la plupart des migrations sont irrégulières, dangereuses et violentes, ce qui laisse une grande partie des migrants mortes ou disparus à cause de ces conditions. Particulièrement au XXe siècle, les migrations marquent l'histoire. On connaît comme la crise des réfugiés de l'Indochine, les flux de population d'après la fin de la guerre de Vietnam en 1975. Plus de 800 000 boat people fuient le Vietnam, Laos et Cambodge par la mer. De même, dans les années 1980, le conflit bellique en Afghanistan provoque une des plus grandes crises humanitaires. Par conséquent, il y a des déplacements massifs de population. Aujourd'hui, des millions d'Afghans sont en dehors de son pays et pendant que les guerres continuent, la fin de cette situation n'est pas toujours envisagée. Dans ce contexte, même si les femmes sont les plus affectées, elles jouent un rôle essentiel dans la transmission des langues et de l'éducation pour les nouvelles générations. Elles représentent la majorité des enseignants dans la région. Pourtant, l'accès à l'éducation est très inégal. L'ASI du Sud est la région du monde avec le nombre le plus élevé de filles non scolarisées dans la planète. Dans les tensions entre pays comme les cultures imposées par les régimes gouvernants en ce moment, les filles sont exclues des établissements scolaires. La manque d'éducation les assure un futur où elles seront opprimées et marginalisées pour le reste de leur vie. L'accès au savoir reste donc pour beaucoup de femmes en Asie un combat quotidien.
Pour incarner cette idée d'immigration et de langue, nous avons choisi l'écrivain Kim Thuy. Kim Thuy naît au Vietnam en 1968, en pleine guerre. Après la chute de Saigon, sa famille fuit le pays. Comme des centaines de familles de Vietnam, elle fait partie des Boat People. À l'âge de 10 ans, elle arrive au Canada. Elle s'installe au Québec où elle découvre la langue française.
Et si aujourd'hui je peux parler aussi bien le français et que je peux travailler comme écrivaine, c'est grâce au Québec qui a pris un pari sur nous. Le Québec a parié sur une petite fille qui ne parlait pas français.
En 2009, elle publie son premier roman, Rui, écrit en français. Le livre rappelle ses origines vietnamites, son étoile des migrations et aussi son expérience avec la maternité au Canada. Cette œuvre connaît un grand succès international. Je suis née dans un pays en guerre, mais j'ai grandi dans une langue de paix. Elle publie ensuite à Toi en 2011, Main en 2013 et Vie en 2016, des récits où la représentation des femmes, l'expérience des migratoires et l'adaptation à une nouvelle culture occupent une place centrale. Ces œuvres sont aujourd'hui traduites en plus de 15 langues.
Le mot francophonie est très large pour moi. Elle ne représente pas seulement la langue française, mais les différentes langues françaises parlées un peu partout dans le monde et aussi la culture francophone. Ou sinon, la culture francophile. Et je crois que même les pays qui ne sont pas francophones ou qui ne sont pas membres de la francophonie regardent la francophonie avec beaucoup d'envie. Parce que je crois que la francophonie représente un peu cette élégance, cet art de vivre et qui est propre à nous. Et le Québec joue un rôle primordial dans ce travail.
La francophonie pour Kim Thuy, plus d'une obligation, c'est un choix personnel. Une voie pour raconter sa propre histoire et montrer au monde la réalité des migrants du monde entier. Avec elle, la langue française devient un espace où l'on peut se reconstruire toujours au féminin.
Aux Indes, après l'accord qui a mis fin au statut des comptoirs français, les autorités françaises sont allées s'incliner une dernière fois devant la statue de Duplex avant de quitter Pondichéry. Les 300 000 âmes que comptaient les enclaves font ainsi maintenant partie de l'Union indienne, C'est une page d'histoire commencée au XVIIe siècle qui se tourne aujourd'hui.
Dans le référendum de 1954, après 3 siècles de présence coloniale, la France quitte officiellement l'Inde. Ce processus, même s'il n'a pas été marqué par une guerre, a fallu des années de lutte. À ce moment, le drapeau de l'Inde est hissé et les nouveaux gouvernements se mettent en place. Mais dans certaines villes, la langue française reste. Pondichéry, Karaikal, Mahé, Yanaon et Chandernagore, situés dans la côte, ce sont les anciens comptoirs de la France dans l'Inde. Aux habitants de ces régions, la France propose le choix de rester indien ou demander la nationalité française. Beaucoup choisissent de rester, mais sans renoncer au français.
Parmi les droits de ces pondichériens français, celui de venir étudier dans le plus grand lycée français d'Asie. 1400 élèves, 85% sont de Pondichéry.
À Pondichéry, le lycée français continue d'exister. Là-bas, les élèves peuvent passer le baccalauréat. La langue française est donc continue à présente dans la culture, permettant une éducation supérieure internationale pour les étudiants.
D'abord, Pondichéry est un comptoir français. L'apport de la France à Pondichéry est un apport plutôt de mariage entre la culture locale et la culture française.
Avec la fin de l'Empire en Inde, l'utilisation du français change de sens. Il est devenu une langue d'éducation et surtout de mémoire.
Mesdames, mes femmes, prenons les armes, il est temps, ils ont de nos larmes. Aucun besoin de faire couler le sang, comme seuls savent le faire. Nous nous contenterons de ce simple chant, dès lors que nos cœurs se serrent.
Pour accompagner cette émission, nous avons choisi une chanson francophone, Femme, de Camélia Jordana. Camélia Jordana est une artiste française, née en 1992, aux origines algériennes. Dans son travail, elle interroge souvent l'identité, la transmission, l'héritage culturel et les femmes dans les sociétés. La chanson qu'on écoutera encourage aux femmes pour prendre sa place dans le monde. Mes sœurs, mes mères, aux femmes sont fières, chantons encore plus fort, poignant l'air. Oui, nos forces sont belles et grandes, nous en au monde en offrant. Mes sœurs, mes mères, ô femmes, soyons fiers. Des femmes comme celles dont nous parlons aujourd'hui, migrants, plurilingues, porteuses d'histoires personnelles et collectives. Femmes, c'est la chanson qui rassemble et dit que chaque voix compte.
Tout au long de cette semaine, nous écouterons des reportages enregistrés lors de la marche du 8 mars. La question d'aujourd'hui, pourquoi venir participer à cette marche? Entre engagement et destin brisé, la parole est aux femmes.
¿Estás listo? Ya. ¿Qué les motiva a estar acá hoy día?
A mí me motiva, hola primero que todo, a mí me motiva el poder representar a todas las mujeres. El día de hoy tengo a mi mamá, a mi abuela y a mi tía que quizá les encantaría estar acá el día de hoy y no se atreven o el contexto nunca les permitió aparecer en estos lugares, así que por eso, para representarlas a ellas.
Conmemorar, por lo menos yo siempre he creído que uno, sobre todo como mujer, tiene que seguir. No porque tengamos derechos actualmente significa que tengamos que dejar de luchar por ellos. Y yo sé que igual hay muchas mujeres acá, todos los días del año siguen haciéndose escuchar. Pero lamentablemente siento que el día que más se escucha son los 8 de marzo. No es hoy día, pero se entiende. Entonces creo que es importante venir acá y manifestar lo que una crea, aunque la traten de loca o de que hace show o de que rompe cosas. Pero lo importante es que se escuche.
¿Qué opinas de este proceso de recesión que está habiendo a nivel global y que ahora sobre todo está tocando a Chile con este cambio de mando?
Terrible. Por lo mismo, siento que a las mujeres les ha costado demasiado llegar a obtener cosas básicas como estudiar, poder votar o expresarse sin que las maten o las golpeen. Entonces que en varios países se esté volviendo como esta cultura, no es la palabra correcta, pero alabando estas acciones en contra de ellas, países donde sobre todo no tienen ni un derecho, que se les siga como reprimiendo es terrible. Y con el cambio de mando que se viene ahora, yo por lo menos, que igual vengo de una familia donde somos puras mujeres, es terrible. Por saber lo que se puede venir y que haya gente que con ese pensamiento tan retrógrado sientan que tengan más poder sobre las demás y hacerlas invisibilizar lo que ellas sienten.
Hola, bueno, nosotros, yo marcho desde hace muchos años y ahora que soy madre hace 2 años, creo que es súper necesario salir a marchar con nuestros hijos y que ellos se den cuenta de la importancia del feminismo hoy en día. En realidad es muy bonito ver este encuentro de mujeres donde todas marchamos con mucho amor, con mucho cariño, por el futuro tanto de mujeres como de niños o hombres finalmente. Así que yo sí, yo creo que es necesario que las madres salgan a marchar con sus hijos y que vengan a mostrarle esto tan bonito que es el feminismo, porque es una cultura muy, muy bonita.
Bueno, mi nombre es Abigail, tengo 24 años. Esta es como mi segunda o tercera marcha. La verdad es que siempre ha sido como un momento en el que uno no se siente tan sola. Como que, de hecho, cuando venía en camino acá, igual me dio como un poquito de ansiedad. Y al final, ver a otras mujeres también como con las cosas que también te han pasado a ti, uno se siente identificada y por lo mismo igual apoyada. Entonces son buenas instancias. Quizá igual este lado no se conoce, pero uno puede ver cómo están los niños jugando, cómo están las personas sentadas, conversando. En realidad, de verdad, es una bonita comunidad y es bacán participar. Eso.
¿Cómo sienten que ha evolucionado desde el feminismo, desde que eran chicas acá en Chile, en la sociedad acá en Conce?
Ya, yo creo que cuando era más chica no estaba tan, no estaba como tan en exposición el concepto de feminismo. Igual yo estudié en un colegio católico, entonces el concepto no se tocaba, era un tema tabú. Y a pesar de que mi familia sí lo exponía, somos una mujer super power, así que orgullosa de eso también. Siento que ha evolucionado increíble. Me gusta ser parte de esto, me siento orgullosa, soy psicóloga y me gustaría también exponer eso a mis pacientitas cuando las vea y motivarlas a que sigan también participando en estas cosas. Y el activismo en general.
Sí, la paz, sí. No, en realidad para mí igual, aparte de lo que decía la Fran, era más como, escucha, al principio, rebeldía. Se creaba como mucho conflicto. Yo igual vengo de una familia muy conservadora y realmente nuestra generación junto a mi hermana fuimos las primeras como en ir a marchar, en alzar la voz, en cuestionar esa lealtad familiar que muchas veces nos dañan como víctimas también de mucho abuso y maltrato. Entonces me parece importante que un día así se promueva la psicoeducación, que se consiente, o sea, que seamos más conscientes de la realidad de otras personas, porque estas son nuestras realidades, ¿cachai? Estas son nuestra experiencia y hoy, créanme que al leer como las pancartas, los afiches, va a ser difícil no emocionarse. La realidad de la mujer en Chile es bastante hostil. Entonces, es genial poder, quizás un día al año, pero permitirte o permitirnos a nosotras expresarnos. Quizás el Día de la Mujer nomás, ¿cachai? Quizás es una marcha, pero el trasfondo de ello es genial. Así que sería eso como lo más importante que podría decirle.
Mira, este año estamos al otro lado de la cara. Este año nos tocó marchar por mi hija, que la mató una bestia. Entró a su domicilio de madrugada, la destrozó el 11 de enero de este año. Una bestia que no tuvo ninguna consideración. Eso nos demuestra que todas las mujeres tenemos que todavía cuidarnos hasta en nuestras casas. Siempre decimos en la calle que las mujeres nos cuidemos, que se cuiden las niñas en la calle, pero ni siquiera estas bestias respetan las casas. mi hija vivía sola y entró por una ventana y la destrozó, y junto con ella destrozó nuestras vidas.
¿Qué nos puede decir al respecto a esta impotencia que sentimos como mujeres al tener que, como usted decía, cuidarnos al salir a la calle, que no poder estar 100% seguras, no poder compartir con gente de otro género por el miedo de lo que nos pueden hacer, también por saber que la sociedad y las leyes siempre van a tratar de resguardar al otro, al monstruo? ¿Y qué nos puede decir al respecto de esto, que tengamos un día al año donde realmente se nos escuche, donde realmente tengamos un espacio para expresarnos, pero que sea uno, y durante todo el resto del año la gente, los medios se hacen vista gorda a lo que es esta lucha?
Debería ser, está bien el 8 de marzo, el Día Internacional de Mujer, de mujeres que murieron en la lucha. Deberían ser más días donde nosotros podamos exigir que el femicida no tenga beneficio, porque hoy la ley los ampara. Inclusive los defensores de ellos piden que sean liberados, piden que sean, que sean condenados, pero que estén en su casa. ¿Cómo puede ser eso si ellos son un peligro para la sociedad, para las mujeres, para las niñas? Ellos deben tener su cadena perpetua siempre. El femicida debe tener cadena perpetua, y que las leyes se vayan mejorando día a día, para que no estas bestias, porque ya son bestias, cada vez es peor. A mi hija la destrozó ese maldito que está en la cárcel, y aún así él pide privilegios para él. La ley nos tiene que amparar a las mujeres, nos tiene que resolver esto que estamos pasando, que no tengamos más miedo, pero cada vez tenemos más miedo, hasta dentro de nuestras casas.
¿Cómo has sentido hoy día, me imagino, este apoyo después de mucho tiempo, porque conociendo cómo funciona este país, ¿cómo has sentido el apoyo de tantas mujeres hoy día, este ambiente más que nada más seguro, un día en el que nos podemos sentir seguras por protestar? ¿Cómo has sentido este día?
Sí, siento una emoción grande. Nunca pensé estar aquí, ni menos en las circunstancias que estamos. Pero sí es una emoción de apoyo, de que no soy solamente yo la que está sufriendo por la pérdida de sus hijos, hermanos, madres, amigas. No solamente yo. Mi dolor es tremendo, pero también hay otras personas que están sufriendo como yo. Lo siento, un apoyo y una sensación, una emoción que de estar aquí junto a muchas mujeres, muchas jóvenes de todas las edades. Yo veo que hay de todas las edades mujeres, y que compartamos nuestro dolor.
Muchas gracias, lamentamos mucho la pérdida y esperamos que se logre una justicia finalmente, y que sea de esos casos que tienen un final justo.
Sí,
esperamos.
D'après ces témoignages, on peut conclure que les femmes d'aujourd'hui sont courageuses et face aux répressions, elles se révèlent et osent leur voix.
Pour terminer cette émission, nous vous présenterons la conversation qu'on a eue avec Stuva, elle est d'origine de Chennai, en Inde. Après 15 ans de vie à l'étranger, elle s'est entourée de différentes cultures. Maintenant, elle est revenue dans sa ville natale pour enseigner le français. Dans cette interview, elle nous a pu raconter sur sa vie et aussi sur la vie des femmes dans son pays.
Alors, j'ai commencé à apprendre le français quand j'étais au lycée. Ici, on appelle ça « second language », comme deuxième langue, en fait. Deuxième langue. En fait, toutes les études en Inde, en anglais. Donc, là, on fait tout en anglais. Mm-hmm. Et après, on a quelque chose qui s'appelle la « second language », qu'on peut choisir soit une langue indienne ou soit le français. En fait, il y a très peu d'espagnol ici. La première langue étrangère en Inde, ça reste le français. Ensuite, il y a l'allemand. Tous les copains que je connaissais, ils allaient tous vers l'informatique. Et j'ai dit, moi, j'ai pas envie de faire comme les autres. Et je voulais faire quelque chose de différent. Et c'est là que j'ai rencontré mon professeur de français, qui me disait, si tu faisais le français, en fait, t'as plein d'opportunités possibles. T'as plein de professions possibles, elle a dit. Elle m'a dit que je peux être enseignante. Tout d'abord, on peut enseigner avec le français. Soit je peux être traductrice. Après, on pouvait être interprète, on pouvait être guide touristique. Ça, c'est quelques exemples de ce qu'on peut faire avec le français. En fait, il y avait tout ça comme opportunité. Vous voyez, quand on compare à dire, on peut dire, voilà, je veux être médecin, ou je veux être ingénieur, ou informaticien. Alors que si on apprend une langue étrangère, vous voyez l'opportunité, combien d'opportunités on peut avoir, autant de chemins qui s'ouvrent. Et j'avais commencé, voilà, en ayant une petite idée, mais voilà, c'est pour ça qu'avec le français, en fait, on peut faire, et je peux dire que ça, on continue à avoir ces opportunités encore aujourd'hui, okay, avec le français. Et deuxième chose, c'est que le français, pourquoi c'est facile pour les Indiens, en fait, c'est que ça, vous savez, l'alphabet français, ça reste le même que l'anglais. Et tout le monde ici connaît, ils savent l'alphabet. C'est un peu comme espagnol. Vous écrivez, vous utilisez le même alphabet anglais. Mm-hmm. Il n'y a que la prononciation, le grammaire et tout qui change. Ouais. En fait, on n'a pas besoin d'apprendre le caractère.
Ouais.
Ce qu'on appelle le caractère, c'est pas le même cas si vous devriez apprendre une langue indienne. Ou le japonais, le chinois. Est-ce que vous avez déjà vu comment on écrit le japonais?
Ouais.
Vous avez une idée d'une langue indienne aussi? Vous avez déjà vu? Non? Je pense que vous pouvez chercher dans Google l'alphabet tamoul, par exemple. Vous voyez?
C'est joli, par contre.
Ouais,
c'est joli.
Ça fait des ronds et des ronds et des ronds.
Oui. En tant que femme enseignante, est-ce que vous pensez que les femmes jouent un rôle particulier dans l'éducation ou sinon dans la transmission des cultures?
Oui, je pense que beaucoup, beaucoup, oui. Par exemple, moi je peux prendre les enseignants de l'Alliance française, de qui mes enseignants à moi que je connais depuis l'année 2000, et là je suis partie à l'étranger pendant 15 ans, et quand je suis revenue en Inde, je vois que mes propres enseignants sont encore à l'Alliance française et je vois combien d'élèves ils ont transmis leurs connaissances de leur culture. Et pourquoi je prends cet exemple de l'Alliance française? L'Alliance française, c'est parce que, en fait, en même temps, on transmet nos cultures aussi aux élèves. Donc, et aussi, on apprend la culture française. Et dans mon cas, moi, j'ai tout appris à, je peux dire, ce que je disais théoriquement. Théoriquement, ça veut dire, j'ai appris dans les livres. J'ai vu les photos de tous les châteaux en France. J'ai vu les monuments à Paris. J'ai vu les billets de Paris, les billets de métro parisien ou les billets de TGV et tout ça dans les photos, dans les livres. OK? Ça, j'ai fait ça à l'Alliance française. Et après, quand je suis arrivée en France, à Paris, j'ai vécu tout ça en pratique. Ça veut dire en réel.
Mm-hmm.
De pouvoir parler la langue parce que je pouvais m'exprimer. Parce que j'ai plein d'autres Indiens qui ne parlent pas la langue, qui vont en tant que touristes et qui ont galéré. Mm-hmm. Alors que moi, je n'ai pas galéré. Moi, c'était... Tout le temps, c'était intéressant pour moi, c'était juste parce que moi, j'avais déjà une connaissance. Donc, de pouvoir m'exprimer, de dire ce que j'ai envie, voilà. Ou même d'aller commander, j'ai besoin d'un croissant à la boulangerie, ou j'ai besoin d'un... Oui, voilà, c'était super intéressant de pouvoir acheter le billet, de dire ma destination pour le TGV, pour dire, voilà, ben, je veux aller à tel endroit, à tel... Parce qu'ils ne sont pas super sympas, hein, au guichet, surtout. Au guichet, dans les SNCF, ils ne sont pas sympas du tout. Si on ne parle pas la langue... Parfois, j'étais très contente de pouvoir parler la langue, même quand elles n'étaient pas... Et c'est vice-versa, ce que je fais maintenant. Parce qu'ici, à Chennai, il y a la communauté des familles... françaises. Ils vivent ici pendant 3 ans parce que les papas et mamans, ils travaillent à l'école, à la société Renault pour fabriquer la voiture Renault.
Mm-hmm.
Je les amène au temple, je les amène dans les marchés, je les amène dans les magasins, partout dans Chennai. Je fais leur guide touristique et je leur explique en français. Et c'est plus facile. Donc ça, la langue, ça reste un moyen. C'est vraiment un outil. Et aussi, c'est toujours bien d'apprendre une langue. voyez, une nouvelle langue, c'est toujours bien. Et ça nous donne plus de confiance, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de parler avec vous grâce à cette langue. Vous êtes à l'autre bout du monde. Même si je ne connais pas votre pays, même si je n'ai jamais visité votre pays, vous voyez comment ça nous met en relation. Ouais. Et moi, je trouve que c'est super intéressant.
Aujourd'hui, nous allons parler de la CIE, des migrations et d'identité culturelle. Nous avons vu que la francophonie pénètre de l'exil aussi que par la transmission et surtout qu'elle se conjugue aussi au féminin. Merci au public de l'Alliance française et rendez-vous demain pour une nouvelle émission consacrée à l'Afrique et l'importance de l'écologisme pour un système social dur, durable et juste.
Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropiconce. Comencemos entonces.